Dans cette quête de réalisme qui caractérise les jeux de rôle, certaines situations peuvent être plus ou moins réussies. Rejoignons notre groupe de valeureux guerriers qui, après 1000 péripéties incroyables, se retrouvent à présent traqués dans un donjon obscur. Ok, bon, vous êtes maintenant dans le donjon d'Arkabaltarkar, le bien-nommé. Les gobelins qui vous ont assailli ont tous disparu. Et vous commencez à entendre un bruit étrange venu des profondeurs de la terre.
Ah ! C'est le boulrog ! J'en suis certaine, il est proche !
Vous sentez le sol vibrer autour de vous, les murs tremblent et la secousse commence à devenir de plus en plus puissante.
Je regarde pour voir si je ne trouve pas un objet magique.
Ok, lance un dé. Tu glisses sur une substance collante et gluante et tu viens de t'écraser à terre sonnée.
J'en profite pour lui faire les poches.
Ok, d'accord, lance un dé. Pendant que tu fouilles, un flot noir et grouillant se rapproche de vous. C'est une véritable armée de rats grinçantes et hurlantes qui semblent prises de panique et s'en viennent à contresens.
C'est le boulrog qui approche! Je me prépare et j'incante le sort du zing zing pouet pouet.
Quant à moi, je sors que c'est ça, ma fidèle épée.
Une odeur atroce commence à emplir l'air.
C'est le souffle du boulrog! Viens ici, créature de l'enfer!
Les vibrations se font de plus en plus proches, vous commencez à voir une immense vague brune déferler sur vous. Elle est constituée d'une matière sombre et gluante qui sent monstrueusement la merde. Il est malheureusement plus temps pour vous de fuir, et le follow vous rejoint, vous entraînant dans une valse cauchemardesque qui infecte à travers les conduits du donjon. Vous êtes éjectés comme deux comédons noirs des murailles du château, et vos corps flasques et mous, rendus poisseux, viennent s'écraser à terre au pied des murailles, dans ce qui ressemble beaucoup à une fosse à purin.
C'est n'importe quoi cette histoire, à chaque fois que c'est René qui fait le maître de jeu, on se retrouve dans des situations merdiques.
Ouais, c'est ça. Hey, au fait, est-ce que quelqu'un a pensé à préparer l'émission?
L'émission? Ben, c'est pas toi qui devais t'en charger, non?
Non.
On sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah. Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time.
À tout. tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, bonjour, bienvenue à l'émission Puissance Maximale, votre émission sur les ondes de CKIA. Et puis maintenant, nous sommes en différé pour tous ceux qui sont à travers le monde et qui peuvent nous écouter sur Internet. Eh bien, nous sommes sur lepetitpeuple.fr, que nous saluons d'ailleurs, à qui nous souhaitons une très très bonne année à tous nos amis francophones et francophiles, évidemment. Aujourd'hui, une très grosse émission encore, et puis on a une table ronde qui s'annonce extrêmement chargée et très intéressante, puisque nous sommes en compagnie de nos trois compères, plus une, je dirais, Fraulein Devil, qui sera directement en onde avec nous, mais sur, eh bien, au téléphone. Et puis, tout de suite, peut-être pour nous mettre dans l'ambiance, j'aimerais juste vous entendre parler, puis nous dire qu'est-ce que vous avez de beau à nous raconter aujourd'hui, en commençant par David Claveau. Bonjour, David.
Bonjour.
Ça va bien? Notre petit nouveau qui ne sait absolument pas à quoi s'attendre et qui est en train de faire des très, très gros yeux parce qu'il se dit « Mon Dieu, mais dans quoi je suis tombé ?»
Ah, je suis sûr que ça va très bien aller aujourd'hui.
Oui, oui.
D'abord, je crois que ma chronique est vraiment intéressante pour vous ce soir.
Parfait, ça commence bien, ça, j'aime ça. Ça, c'est un bon début.
Oui, c'est un bon début dans mon initiation à la radio. Donc, ce soir, moi, je vais vous parler des jeux de vidéo sur console surtout. Donc, d'abord, je vais faire une espèce de retour sur l'année 2007 qui a été vraiment extraordinaire pour les jeux vidéo sur console.
C'est une revue de l'actualité, en fait, que tu vas nous faire sur ce qui s'est passé sur le dernier mois et puis en particulier sur tout ce qui est économie dans les vidéos, c'est
exactement
ça? Dans les jeux
aussi.
Vidéo.
Exactement.
Ensuite, on est évidemment avec notre ami Mathieu. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour.
Qui, si vous le verriez, il a l'air tellement pitoyable. Il a un bras dans le plâtre, il est tombé.
Oui,
en faisant du soccer.
Je ne suis pas tombé, je suis rentré dans un mur de manière tout à fait stupide en jouant au soccer dans un gymnase. Je voulais rattraper le ballon et puis à la dernière minute, quelqu'un m'a encouragé à aller le chercher. Là. Ah ouais, pogne-le! Et puis ben, ça a été l'encouragement de trop. Je me suis fracassé le coude contre le mur.
T'avais donné la puissance maximale.
Oui, exactement! Voilà!
Merci. Dis-moi Mathieu, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Eh bien, comme vous le savez, je fais une chronique sur tout ce qui est jeux vidéo rétro et puis dans les derniers mois, j'avais parlé des jeux des années 80 et 90 et puis là, je trouvais que je m'approchais dangereusement de la contemporanéité. Alors, je suis allé vers les années 60. Alors, je vais parler du premier jeu vidéo officiel de l'histoire des jeux vidéo qui date de 1961.
Intéressant.
C'est oui. Du Pong, c'est ça?
Non, c'était avant le Pong.
Avant
il y avait
Pong,
quelque
avait
chose
quelque
avant
chose,
le Pong.
Il existait quelque chose avant le
éducatif,
Pong.
Puissance maximale.
Oui, attention.
Et dis-moi, Christian, de quoi vas-tu nous parler, toi?
Oui, bonjour l'équipe. Moi, je vais vous parler aussi d'une chronique historique. L'histoire des jeux de rôle traditionnels, on parle, là, donc pas de jeux vidéo. Là. Donc, je vais parler principalement des années 80 et des drames qui ont eu surtout lieu là, suite à ça, principalement aux États-Unis.
Je pense que c'est principalement toute la chasse aux sorcières autour des jeux de rôle qui a eu lieu dans les années 80 puis qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé dans les jeux vidéo à l'heure actuelle.
Oui.
Ça risque d'être vraiment passionnant. Puis dans quelques minutes, juste avant de commencer avec David qui va partir le bal, eh bien nous allons tout à l'heure rejoindre Chantal Campagna, notre Fraulein Evil, qui va nous parler en fait de comment massacrer des gobelins ou toutes les sorties de la semaine et du mois pour ce qui est des jeux de plateau, évidemment. Bon, David, c'est à ton tour. Nous t'écoutons. Qu'est-ce qui s'est passé de passionnant depuis ce mois de janvier?
Bien, selon l'Institut eDate, les revenus estimés étant de plus de 43 milliards de dollars canadiens pour les ventes de jeux de consoles pour l'Europe, les États-Unis et au Japon.
Ouf!
C'est une progression d'autour de 42% depuis les dernières années. C'est surtout les jeux qui sortent la plus grande part de ces ventes-là. On parle des jeux de consoles de salon qui dominent au-dessus de 50% de ventes, suivis de près par les consoles portables à 18% ainsi que les PC à 17,8%. Selon le même institut, les ventes devraient progresser autant pour 2008. Par contre, ce serait plus pour les jeux et non les consoles. En 2007, il y a plus de 80 millions de machines qui ont été livrées partout à travers le monde, autant sur PS3, la Wii et le Xbox 360, ainsi que le PS Portable.
C'est assez incroyable. En fait, moi, je vous avouerai que je suis tombé sur le jeu les jeux vidéo appliqués aux parents, un livre extraordinaire. Puis je pense qu'en effet, ça vaut la peine qu'on parle de tout l'impact économique des jeux vidéo qui, à l'heure actuelle, sont devenus mais un monstre, quelque chose de vraiment énorme.
énorme d'un point de vue économique, que ce soit au niveau de chiffre d'affaires qui a dépassé de très très loin ce qui se passe au niveau du cinéma. Quand on est capable de faire plus que le cinéma, c'est qu'on commence à devenir majeur dans le monde. C'est quand même 60% des Américains qui jouent aux jeux vidéo.
Et selon vous, quelle console a gagné le palmarès des ventes en 2007?
Xbox 360.
Non.
Mais non.
Ça a été la Wii.
Non, non, mais je suis comme le faire valoir aujourd'hui. Okay.
La Wii, elle s'est vendue 3 fois plus durant la 2007 que, par exemple, la PlayStation 3, ce qui est vraiment intéressant comme domaine. Et pourquoi la Wii a été la plus grande vendeur?
Ben, elle est plus abordable, premièrement. Mm-hmm. Oui, donc, elle est intergénérationnelle aussi. Puis elle a des contrôles intuitifs.
Parce qu'elle est beaucoup moins chère aussi que la PS3 qui est sortie en même temps et puis qui était 3 à 4 fois plus chère.
Oui, mais ce que les gens oublient, c'est que la PS3 peut servir de lecteur haute définition, DVD haute définition, mm-hmm. puis c'est moins cher qu'un lecteur. Donc, c'est quand même. Il y en a qui la jettent juste pour ça.
Oui, tout à fait, tout à fait.
J'ai l'impression que la Wii aussi, ça a charmé certains parents qui voulaient faire bouger leurs enfants aussi. Là, je ne sais pas si ça fait bouger tant que ça, les enfants, mais il y a une espèce de petit plus. Là, j'ai l'impression que...
Tout à fait, d'ailleurs, très sérieusement, il y a une étude scientifique qui est sortie cette semaine qui prouvait que la Wii permettait d'augmenter de 2% l'activité physique des enfants par
2%.
Rapport...
2%?
Allons-y, achetons la Wii, puis faisons de l'activité physique.
Donc, surtout, il faut continuer à faire du sport, c'est clair.
C'est clair.
2%, oui.
Et pour les ventes au Québec, le Québec a été vraiment un nouveau cap dans les jeux vidéo, une croissance en moyenne de 25% seulement en 2007, et dans la grande région de la capitale, une grande croissance de 43% pour ce qui est des industries dans le domaine des jeux vidéo consoles. On a créé au-delà de 700 emplois d'ici pour 2009. Beaucoup d'investissements qui se fait dans la grande région de Québec. Pourquoi tant d'investissements que ça dans cette belle grande région de la capitale?
J'ai l'impression qu'il y a des avantages fiscaux qui ont été octroyés aux entreprises qui voulaient s'installer à Québec.
Oui, exactement, parce que le gouvernement commence à prendre une bonne part aussi pour l'implantation de l'industrie des jeux vidéo au sein de...
Ben, Jean Charest l'a dit, justement, je pense que j'en avais déjà parlé, il voulait faire de Montréal le Hollywood des jeux vidéo. Et puis là, on est tout proche de Montréal, alors j'imagine que ça se répercute.
Oui, puis c'est énorme à Montréal, comment ils appellent ça, la cité du...
Multimédia?
Ouais,
c'est pas ici, ça, la cité du
gros projet. Ben, en tout cas, c'est quand même gros là, comme ce qui avait été prévu pour ça.
Wow. Oui, effectivement. Selon le groupe d'Electronic Arts, l'année 2007 au Québec a été une année très fructueuse. Et puis le même groupe désire se conquérir la planète éventuellement pour 2008.
Bon, rien de moins. Je pense qu'ils sont influencés par les sujets de leur jeu.
C'est quand même le fun qui commence par le Québec avant de passer au monde.
C'est ce que les Backstreet Boys ont fait à l'époque. Hein? Ils ont conquis le Québec et ensuite le monde.
Mais pour conquérir le monde, il faut être créatif.
C'est vrai.
C'est vrai.
Et on est créatif au Québec.
Oui, c'est vrai. Et n'oublions pas en plus que cette semaine, nous apprenions la grande, grande nouvelle. Bill Baxter, non pas Bill Baxter, mais, mais le grand boss de Microsoft prend sa retraite.
Oui, c'est vrai. C'est sa dernière...
D'ailleurs, il a annoncé ça avec une guitare à la main. D'ailleurs, je cherche encore à savoir pourquoi il a annoncé ça avec une guitare à la main.
Ah, yeah, c'est la nouvelle tendance, j'imagine. Les présidents américains ont tous un instrument à la main. C'est ça, c'est pour montrer leur jeunesse éternelle, j'imagine. Puis,
oui, vous pouvez voir ça sur le web, là, le Consumer Electronics Show, CES, là, en fait, CES 2007. Bill Gates, vous allez voir les films, c'est vraiment drôle. Okay. Il a fait une vidéo pour montrer, caricaturer sa dernière journée de travail, c'est vraiment... tordant, là. Il essaie de se trouver un nouveau job avec Bono, avec plein de... C'est vraiment drôle d'aller voir ça.
D'ailleurs, il y a une citation de Bono qui est sortie justement cette semaine qui disait « Je ne peux pas remplacer The Edge parce que tu as une bonne note à Guitar Hero. » Donc, ce ne sera peut-être pas ça sa future carrière, mais on lui souhaite quand même tout le plaisir qu'il mérite. Surtout que le pauvre, ça ne doit pas être facile d'avoir autant de millions d'accumulés.
Ouais, je me demande s'il va avoir une bonne retraite ou s'il a pensé à son affaire.
Ben, en fait, c'est qu'il va attendre plein à sa fondation là, donc de bienfaisance, Bill et Melinda Gates. Donc, c'est quand même, il faut dire qu'il fait beaucoup de bien. Là,
oui, c'est ça.
Pour terminer ma chronique, parlons un petit peu de Greenpeace qui a fait une campagne de sensibilisation de Clash of the Consoles. Selon Greenpeace, plus les ventes d'un console étaient augmentées en 2007, c'est très polluant puisque les composantes ont un petit peu de chimique en eux. Donc, ils incitent les grandes entreprises à vouloir éliminer les substances chimiques dans la conception des consoles, ainsi que créer des services de récupération de consoles éventuellement.
Eh bien, OK. Bonne idée.
Le même problème qui se passe avec les ordinateurs, là, les PC, c'est terrible. Les métaux lourds qui sont... Oui.
Donc, je vous propose tout de suite, merci beaucoup d'abord,
ben, ça me
David,
fait plaisir.
Pour être venu. Est-ce que tu restes avec nous?
Oui, je veux bien rester avec vous, si je ne vous ai pas trop cassé les oreilles lors de ma première chronique.
Absolument pas, ça a été un grand, grand plaisir. Tu restes avec nous donc, et puis tout de suite après la pause, eh bien, on va rejoindre Chantal Campagna en direct de Montréal, de la grande ville, là où ils savent faire des jeux. Mais ici aussi, on sait faire des jeux, mais ce n'est pas pareil. C'est un petit peu différent. Puis on se retrouve, évidemment, le temps pour moi de composer le numéro et puis de revenir tout de suite en onde avec vous, c'est-à-dire le temps d'une petite chanson. Exactement. Puis là, qu'est-ce que je vous ai proposé? Qu'est-ce que je vous propose tout de suite? Eh bien, je vous propose d'aller...
La danse des canards?
Non, ça pourrait être bien. On va y aller avec du Stephen Lynch, le fameux Dungeon and Dragon.
Oui.
Get a little harmonica. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement, bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right, take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not.
I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end.
Whoa. You got a girlfriend?
Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we... Two, three, four,
yeah! Et oui, de retour en onde pour l'émission Puissance Maximale. Et puis, on va faire un premier test, puisque normalement, nous devrions être en direct live de Montréal, avec Montréal, et puis en compagnie de Chantal. Bonjour Chantal. Mon Dieu, c'est une réussite totale.
Attends un peu, là, laisse-y le temps, Chantal. Là,
c'est vrai que la distance ne nous aide pas. Hein?
Oui, c'est ça. Il y a peut-être un délai entre Québec et Montréal au niveau du téléphone. Là. J'ai déjà vécu ça. Ouais.
C'est fort possible. En tout cas, on réessayera un petit peu plus tard pour Chantal. Ça va lui donner le temps de se repréparer parce qu'elle m'a dit tout à l'heure, parce que j'ai quand même réussi à la rejoindre, qu'il lui restait encore peut-être 4 minutes de préparation.
Ah,
juste 4 minutes, c'est absolument rien. Donc, moi, je vous propose tout de suite peut-être de passer sans aucune transition eh bien, à la chronique rétro. Mais... La chronique rétro dit qui dit ? Chronique rétro dit générique rétro.
Ah oui, bah oui. Bah oui.
Ah oh.
Ouais. Oui, hein, c'est toujours un grand moment que de pouvoir écouter ce générique de Mathieu Place. Ça me fait chaud au cœur.
Oui, oui, toute la puissance de la technologie des Casio de l'époque, là, on l'entend. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler, comme je l'ai dit en introduction, du premier jeu vidéo officiel. Là, évidemment, il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ça. Alors, le jeu que je vais vous présenter, il s'appelle Space War. C'est ce que les gens considèrent comme le jeu, en tout cas, la plupart du monde pense que c'est vraiment le premier jeu vidéo de l'époque. Bon, je vous dirais que ça a commencé en 1961. Le jeu a été conçu par Steve Russell et puis sa gang d'amis qui étaient au MIT, la fameuse école de technologie de Boston. Et puis, c'était un groupe d'amis qui avait un club de trains électriques. Alors, cherchez pas pourquoi, là. En fait, c'était des geeks tout à fait originaux, tout à fait authentiques. Et puis, ils trippaient sur la programmation et sur la science-fiction. Alors, tout ça mis ensemble, brassé un petit peu, ça a donné le jeu Space War, ce jeu-là, ça consiste à deux vaisseaux qui s'attaquent l'un l'autre. Là, évidemment, à l'époque, les ordinateurs, bien qu'ils étaient aussi gros qu'une pièce entière, ils n'étaient pas assez puissants pour créer de l'intelligence artificielle.
Mais alors, c'était un jeu d'ordinateur, en fait.
Oui, c'était un jeu d'ordinateur, exactement. Avant ça, il y avait évidemment le pinball, il y avait d'autres jeux électroniques, mais le premier jeu, comme on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire avec un moniteur, une espèce de télévision, et puis des pixels, animé, eh bien, c'est celui-là qu'on considère comme le premier jeu vidéo. Bon, c'est ça. Alors, il y avait quelques petites innovations. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Astéroïde.
Oui, bien
oui.
Sûr.
C'est ça. Alors, pour ceux qui chercheraient à avoir une image mentale du jeu Space War, eh bien, ça ressemblait un petit peu à ça. Astéroïde a été inspiré de ce jeu-là en question. Bon, alors, vous aviez deux vaisseaux qui s'attaquaient l'un l'autre avec des petits missiles, et puis ils se promenaient un petit peu dans l'espace. Et puis là, peu à peu, ils ont ajouté une planète qui donnait de la gravité pour que les vaisseaux, faut qu'ils l'évitent, là, qu'ils ne se laissent pas faire par la gravité de la planète. Ensuite de ça, vous aviez une touche qui s'appelait Hyperspeed, et puis vous appuyez sur cette touche-là, et puis là, ça faisait en sorte que votre vaisseau allait tellement vite qu'il se téléportait à un autre endroit de l'écran complètement, et puis bon, ça vous permettait de déjouer l'adversaire là, d'une manière tout à fait inattendue.
On pourrait traduire ça par puissance maximale.
Oui, c'est ça, puissance maximale, là, voilà, on est partout, okay. C'est... Immanescent. OK. Bon, ce jeu-là n'a pas eu de commercialisation en tant que tel. Ne serait-ce qu'une toute petite commercialisation. Alors, c'est non seulement le premier jeu vidéo, mais c'est le jeu vidéo qui a eu la première commercialisation. Mais attendez de voir c'était quoi exactement. C'était deux étudiants à l'université Stanford qui ont décidé de prendre ce jeu-là et puis de mettre une machine à sous juste à côté, une machine dans laquelle on pouvait insérer des 25 sous pour pouvoir y jouer. Et puis, c'était dans le local étudiant à l'époque, en 1972. Alors, c'est tout ce que ça comprenait comme diffusion. Alors, c'était un jeu commercialisé.
C'était révolutionnaire pour le temps quand même.
Oui, c'est ça. Il suffisait qu'il y ait deux joueurs qui se disent hey, « on peut faire la pièce avec ça », puis ils ont mis ça dans le local étudiant, puis ça a été le premier.
C'est l'ancêtre des machines arcades.
Oui, exactement. C'est ça. T'sais, ça a été un pionnier malgré tout. Le premier jeu qu'on a vu dans les maisons, c'était le jeu Pong, le premier jeu qui a été commercialisé pour les foyers des gens, c'était Pong. Mais bon, je vais vous en parler peut-être une prochaine fois de ce jeu-là.
Alors, dis-moi Mathieu, oui? Juste une question, parce que là, t'es lancé. Oui. Dis-moi, est-ce que ça existe maintenant? Est-ce qu'on est capable de jouer au premier jeu sur son ordinateur?
Sur son ordinateur, j'ai fait quelques recherches. Je ne l'ai pas trouvé. J'imagine que ça peut se trouver, là. Ça, c'est certain, parce qu'on considère qu'à l'époque, il y a beaucoup de jeux qui ont été programmés de cette manière-là. Celui-là, il est plus connu, et puis pour la simple raison que le système d'exploitation qui a été utilisé, c'était le DEC. Bon, c'était une compagnie d'ordinateurs de l'époque. Et puis, la compagnie, pour pouvoir ajouter une petite touche à son produit, a décidé de mettre le jeu dans un package deal, là, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que le jeu a été diffusé d'une certaine manière avec l'ordinateur. Alors, c'est pour ça qu'on peut le retrouver maintenant. Mais là, tous les autres jeux qui ont été programmés à l'époque, les ordinateurs ont été détruits, les cassettes sur lesquelles c'était enregistré ont été détruites. Alors, c'est le seul qui nous reste. J'imagine que si vous faites des recherches sur Internet, vous allez pouvoir le trouver d'une certaine manière. Évidemment, c'est assez basic là, comme jeu. Là. Je pense qu'il n'y a même pas de couleur. C'est noir et blanc sur, sur noir et blanc.
Ce qui veut dire que tu n'as vu absolument aucune image de ce jeu.
Ah, ben j'ai vu des images, oui, des images, des images fixes, si on peut dire.
Ouais,
là,
oui,
mais
ouais.
J'ai pas pu l'essayer en tant que tel, là, malheureusement.
Mais alors, quel dommage.
Oui, quel dommage. Tu attises ma curiosité.
Ben,
je pense
moi,
que
moi
je vais essayer.
C'est parce qu'en fait, il y a quand même un mouvement que moi je trouve passionnant aussi. C'est toute l'utilisation des émulateurs à l'heure actuelle sur les ordinateurs PC ou Macintosh récents. Là, mm-hmm. Où on peut aller chercher toutes les consoles, les vieilles consoles, les Nintendo, les NES, les premières Nintendo, ou même encore un petit peu ultérieurement, les Commodore 64.
Oui.
Toutes des espèces de jeux. Bah, des jeux. C'est, en fait, c'est des consoles qui sont devenues mythiques, puis qui, à l'heure actuelle, font encore triper tout ce qui peut être tripeux de ce
type-là.
Puis,
mis à part l'émulateur, je pense que vous pouvez avoir un jeu comme Super Mario 3 qui peut être... en fait, il tient à quelques cas. Là. C'est pas un gros jeu. Alors, sur votre ordinateur, vous pouvez avoir toute la collection des jeux de Nintendo, et puis ça prend pas de place. Là.
Mais c'est un monde d'initié, par contre. Hein. Moi, j'ai déjà essayé de jouer là-dedans, puis ça prenait quelqu'un pour tenir par la main, parce que c'est rare là, qu'on trouve des packages faciles à installer. Souvent, il y a plusieurs étapes. C'est pas évident. Là.
Puis c'est souvent complètement gratuit.
Oui. Oui, mais c'est un peu piraté. Évidemment, Nintendo a essayé de fermer tous les sites qui proposaient ces jeux-là, mais en même temps, il y en a tellement, ça pullule. De toute façon, vous allez pouvoir en trouver un d'une manière ou d'une autre, là,
oui,
c'est certain.
Il appelle ça le « abandonware », puis il y a tout un débat autour de ça. Je pense que ça serait un bon sujet de chronique,
oui, c'est vrai. Oui.
Est-ce que c'est légal ou pas, etc.
En tout cas, pour ce qui est du premier jeu vidéo, il y a peut-être une dizaine de personnes qui ont pu y jouer, si je comprends bien.
Oui, je vous dirais peut-être un petit peu plus. Là. On va être un peu moins conservateur. Je dirais que tous ceux qui ont eu un ordinateur DEC qui était réservé aux ingénieurs et puis aux mathématiciens de haute voltige à l'époque, eh bien, peut-être que tous ces gens-là, je dirais peut-être quelques centaines de personnes, ont pu avoir accès au jeu Space War. Petite anecdote pour terminer ma chronique. Justement, le gars qui a programmé le premier jeu vidéo, Steve Russell, par la suite a eu une carrière dans la programmation. Il s'est retrouvé à Seattle. Et puis à Seattle, il faisait affaire avec quelques groupes d'étudiants pour pouvoir faire le test de ses programmations, de ses jeux, etc. Et puis parmi ces étudiants-là, dans le groupe des testeurs en question, c'était des étudiants du secondaire. Là. Il est placé dans une salle, et puis là, il disait « Bon, ben, touchez sur toutes les touches, taponnez, et puis on va voir si ça réussit à planter. » Eh bien, parmi ces étudiants-là, on avait le fameux Bill Gates, dont on a parlé au début. Alors, si vous croyez à tout ce qui est destiné, entrecroisement des destinées de certains arts...
Ce qui veut dire que Bill Gates était tout au début.
Il était là tout au début.
Peut-être
et puis,
qu'il sera là aussi à la fin.
J'espère pas, parce
peut-être
que là,
il a été l'un des heureux chanceux à pouvoir jouer au tout premier jeu.
Ben oui.
Hey, il faudrait l'interviewer pour savoir exactement ce qu'il en a pensé.
Oui, selon la légende, Bill Gates était celui qui réussissait à faire toujours planter les ordinateurs de Steve Russell.
Et d'ailleurs, ça continue avec Microsoft. Il arrive à toutes les faire planter. D'ailleurs, on arrive tous à les faire tous planter. Les
oui,
Microsoft,
c'est comme la démocratisation de son propre talent.
Oui, c'est ça, parce que la grande lancée du programme Windows 98, là, devant tout, c'est vraiment le lancement officiel. Effectivement, il avait dit, toi, il y avait Dan l'ingénieur, toi, si tu fais planter ça, je te vire. Puis comme de fait, ça plante. Puis là, ça a l'air qu'au micro, il a dit « Toi, t'es viré », comme je savais.
Puis tout le monde a rigolé parce que tout le monde pensait que c'était
une blague.
Et puis l'autre, par contre, il était blême.
Oh, oui, c'est quand même
et les actions de Microsoft ont chuté de 10%.
Non. Ils ont même pas
les pauvres. En tout cas, on va réessayer évidemment d'aller contacter Chantal, notre Fraulein Evil. Puis on vous revient tout de suite après cette deuxième pause musicale. Deux dans la même émission, c'est quand même assez fort.
Enfin,
on aime ça, la musique.
Bah oui, c'est le fun. À tout de suite.
We'll be right back. Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, vous êtes toujours sur les ondes de Puissance Maximale. Et puis normalement, là, ce coup-là, si tout se passe bien, on est en présence de Chantal.
Allô?
Oui, extraordinaire, mais c'est fantastique quand ça fonctionne bien. On est tous très, très, très contents de t'avoir avec nous, Chantal, aussi communément appelée Fraulein Evil.
Moi!
Moi! Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu as passé un bon temps des fêtes, Chantal?
Ah, c'était génial!
Ah, ça donne presque le goût de savoir ce que tu as fait, mais bon, on est en onde, hein. Les gens ne sont pas forcément intéressés.
C'est privé, c'est privé.
Puis aujourd'hui, tu m'as dit que tu allais nous casser du troll.
Pardon? Que je trucidais du troll?
Oui, que tu allais trucider du troll. J'ai bien hâte de savoir exactement ce que ça veut dire.
Écoute, tu allais trucider du troll pendant que j'étais en attente tantôt. J'étais prête, j'avais mon troll, mon épée, tout effilé. Je voulais le faire en onde et tac, tac. J'ai pas réussi à résister, je l'ai déjà fait. Désolée.
C'est pas grave, ça sera pour sûrement pour une prochaine fois où on va pouvoir entendre enfin ce merveilleux bruit de la tête qui se tranche du troll.
Crunch!
Dis-moi Chantal, aujourd'hui tu vas quand même nous présenter un petit peu les dernières sorties du monde extraordinaire des jeux de plateau.
Écoute, le mois de décembre, ça a été une manne pour les nouveautés. Le mois de janvier aussi. Et le mois de février s'annonce aussi bon, surtout dans le marché des versions françaises. Alors, tu vois, de la compagnie Ubik Millennium qui nous amène les belles traductions de Fantasy Flight, entre autres, ils vont nous amener, nous offrir, nous faire profiter de Dust, le jeu de plateau. Alors, imaginez-vous, 1938, les Allemands découvrent un vaisseau spatial sur les côtes de l'Antarctique avec un équipage vivant. 1950, le monde a changé et complètement dévasté. Il ne reste que de la poussière. Alors, allez-vous réussir à sauver le monde ou vous allez le détruire? C'est à vous que ça appartiendra.
Wow, ouais, c'est vraiment intense. C'est tout un scénario.
Ce jeu-là s'adresse vraiment aux fans de jeux de conquête, de jeux de combat, à la Risk, à la StarCraft. C'est vraiment génial. C'est un jeu pas de dés et la boîte pèse environ 80 livres avec ses 800 pitounes!
Wow!
C'est superbe et Ubik nous l'offre en version française le mois prochain, au mois de février.
Dis-moi, il risque de se vendre à combien, à quel prix?
Oh, il devrait tourner autour des 60$. C'est dur à dire, mais ce que je peux dire, c'est que si vous cherchez un cadeau de la Saint-Valentin à offrir à votre chum ou à votre blonde gamer, voilà, ne cherchez pas plus loin.
Ouais, c'est extraordinaire, j'ai bien hâte que ma blonde y pense.
Je donnerai un petit coup de pied.
C'est parfait, c'est une très très bonne idée. Dis-moi juste, peut-être on va une question complètement annexe. Dis-moi comment ça s'est passé pour les ventes au Valet de Cœur pendant Noël? Est-ce que ça s'est bien passé?
Ben écoute, Noël, c'est toujours une saison où ça marche quand même bien. C'est sûr que pour le Valet de Cœur, ça a très bien été cette année. Je pense que ça a été fort dans toutes les boutiques du Québec d'ailleurs.
Oui, hein. D'après ce que j'ai pu lire, il y avait quasiment 9% de croissance cette année dans les jeux, ce qui fait que c'est quand même pas pire.
Oui, on connaît vraiment un engouement pour les jeux de société. Les gens sont plus prêts à explorer, à prendre des risques, à voir autre chose que le Monopoly et le Clou. Ils sont allés beaucoup dans le Carcassonne, l'aventure postale, les petits jeux de gestion qui sont simples. Ils sont allés dans les jeux de party. Je te gage, j'ai fait un tabac encore cette
année. Ouais.
Jeu de cartes d'un auteur québécois. Ça a été vraiment super. Les gens, je pense, ont vraiment osé cette année. Ils ont décidé de voir un petit peu plus loin, de prendre le risque. Et ça a été payant pour tout le monde, je crois.
Dis-moi, à part Dust, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette fin de mois?
Bon, écoute, au mois de février, on attend L'ombre de la guerre, qui se trouve à être une extension pour World of Warcraft, le jeu de plateau. Donc, pour les amateurs, ça va être un beau cadeau. Il est très attendu. Ensuite, pour les amateurs de hockey, on a reçu History Coach Hockey, qui est une adaptation canadienne-québécoise, finalement, au jeu History Coach Soccer, qui est un jeu italien. C'est une coproduction québéco-italienne. Donc, c'est une adaptation avec notre sport national, le hockey. Donc, c'est un jeu de party, c'est complètement hystérique, de là le titre, History Coach. C'est pour des groupes entre 4 et 15 personnes. Et ce n'est pas pour ceux qui ne veulent pas entendre de bruit. C'est absolument superbe.
Est-ce que tu pourrais nous le présenter un petit peu au niveau des règles? Parce que moi, je l'ai déjà vu. Je sais que c'est un jeu extraordinaire, mais je suis sûr que nos auditeurs ne le connaissent pas.
Alors, ce qu'on va avoir, c'est qu'il va y avoir des joueurs qui vont gérer les joueurs de hockey qui sont sur la patinoire. En face d'eux, ils vont avoir leur coach qui vont leur crier des ordres pour que les joueurs puissent se placer dans la séquence correcte pour marquer un but. Le problème, c'est que c'est un jeu qui est simultané, donc les deux coachs vont crier dans les oreilles en même temps les joueurs adverses pour être capables de se faire comprendre par leurs joueurs. Et il y a des mots, évidemment, qu'ils ne pourront pas utiliser comme à droite, à gauche, avance et recul. Et il y aura, s'il y a assez de gens, des arbitres qui vont s'assurer de bien mettre de la discipline là-dedans et finalement foutre un petit peu plus le bordel dans le jeu. Donc, on se retrouve avec des coachs qui crient dans les oreilles des autres joueurs avec des noms complètement cadabrants. C'est vraiment, vraiment trippant. C'est un jeu qui dure 30 minutes, puis après, on change de coach, il n'y a plus de voix.
J'imagine complètement. En fait, c'est vraiment de la démence. C'est vraiment un jeu de partie de base. Est-ce qu'il faut être un petit peu, est-ce qu'il faut avoir un petit peu bu pour jouer à Hysteria Coach, d'après toi?
On n'est pas obligé. Je pense que si on a l'esprit joueur, on n'est pas obligé d'avoir bu. Mais c'est sûr que quand on a bu un peu, c'est encore plus drôle. À plus, on a bu trop, ben à ce moment-là, on se met dans les gradins et on regarde. De regarder, de jouer, de participer, de crier ou non. C'est vraiment un jeu d'ambiance où tout le monde va embarquer, qu'il soit embarqué dans le jeu ou non. C'est, pour les parties, c'est génial. Et ensuite, dernière nouveauté du mois de février qui va faire bien des heureux, Utopia de Matago Édition.
Je t'avouerai que Utopia m'interpelle totalement. J'ai regardé quelques publicités, puis j'ai vu quelques chroniques là-dessus, puis ça a vraiment l'air d'être incroyable comme jeu.
C'est un jeu qui est superbe. Le matériel à l'intérieur est absolument fabuleux. Utopique, pourrait-on dire. Et évidemment, la mécanique de jeu est loin de l'être, puisque pour faire la plus belle cité d'Utopia, on va quand même essayer de donner le pion à tous ceux qui essayent de faire comme nous pour être capables de remporter la partie. C'est quand même une belle mécanique, c'est un beau jeu qui s'adresse au grand public. 2-5 joueurs à partir de 10 ans, il va être absolument superbe. Il a fait un tabac à Essen au mois d'octobre 2007. Il est attendu avec impatience ici au Québec. Il a déjà fait un tabac en France. C'est un jeu qui a vraiment un avenir incroyable.
Dis-moi, il a été créé par des Français, mais c'est un groupe de Français avec comme une espèce de coopération créative, si j'ai bien compris.
Mais en fait, c'est Arnaud Urbon, Ludovic Villa qui nous l'amène, mais il y a quand même eu 3 illustrateurs. Ce jeu-là, c'est un trip de gang. C'était un jeu, ça là, il avait envie vraiment de triper, de faire quelque chose d'un petit peu plus pété, un petit peu plus poussé, et je pense qu'ils ont réussi. Ils ont remporté leur pari parce qu'ils ont quand même réussi à pondre quelque chose qui va très, très bien au niveau du public, mais qui interpelle les gamers.
Dis-moi, Utopia, on l'attend pour quand exactement?
Utopia, on l'attend aussi pour le mois de février. Il va arriver, il est sur le même bateau que Dust en français et L'ombre de la guerre.
Et puis, il sera vendu à peu près à quel prix?
Oh, c'est difficile à dire. Je dois t'avouer qu'avant d'avoir vu les factures, je n'ai pu te dire, mais ça va être un jeu qui va quand même coûter dans les 60$.
Oh, c'est un tout petit jeu.
Oui, c'est un petit jeu.
Encore un autre très, très bon conseil pour la Saint-Valentin.
Ah, avec Hysteria Coach Hockey, évidemment. Et si jamais ce n'est pas une nouveauté du mois de février, mais c'est une nouveauté qui nous est arrivée à la fin décembre, un peu tard pour Noël, juste à temps pour la Saint-Valentin, c'est Kingsburg. C'est une édition française du jeu italien et c'est un gros jeu de gestion hyper pesant pour les amateurs. C'est 1h30 à partir de 2 joueurs et vous jouez. Vous êtes désigné gouverneur de la cité pour la protéger contre des monstres, de monstrueux envahisseurs qui se sont massés autour de la cité. Donc, c'est un jeu de gestion. Vous devez prendre des décisions. C'est à la Porto Rico, c'est à la Power Grid, c'est à la Cuba. C'est absolument merveilleux. Si jamais Bermuda, ce n'est pas arrivé pour la Saint-Valentin. Kingsburg fera l'affaire.
Wow, extraordinaire. En tout cas, on a vraiment hâte au mois de février pour voir absolument toutes ces nouvelles sorties. Puis on va te remercier grandement et chaudement, Chantal, pour cette nouveauté que tu nous as apportée. Puis on va te souhaiter surtout une très, très, très bonne semaine.
Merci, et vous aussi.
Salut, merci beaucoup encore. On était tout de suite en direct de Montréal avec Chantal Campagna, qui est aussi notre spécialiste des jeux de plateau et puis des sorties pour le mois de février. Puis tout de suite après, justement, une légère petite pause musicale, on va revenir tout de suite après avec Christian qui piaffe d'impatience à l'idée de pouvoir nous parler justement de tout ce qui s'est passé dans les années 80 au niveau des jeux de rôle. Mm-hmm. Christian?
Ça a mal été, oui.
Ça s'est très, très mal passé. En tout cas, on se retrouve tout de suite. Et puis, surtout, restez à l'antenne de Sekaya. C'est l'émission Puissance Maximale qui est toujours à l'antenne.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, vous êtes toujours sur les ondes de Puissance Maximale, l'émission de jeu qui parle uniquement de jeu. Puis là, actuellement, je suis avec Christian Lacroix. Christian, tu vas nous parler justement de jeux de rôle.
Oui, les jeux de rôle et non pas drôle. Ben, c'est souvent drôle, mais pas tout le temps.
Il y a toujours une confusion hein, par rapport à ça.
Ouais,
merci d'avoir remis les choses au clair.
Ben non, mais c'est tannant parce que tout le monde est drôle. Hein. Bon, c'est un running gag là, qui vient. Bon. Bref, oui, moi, je vais vous parler un peu que ben, c'est Mathieu qui m'a inspiré ça avec ses chroniques là, vintage là, sur l'histoire. Là, ça, je trouve ça intéressant. Donc, on va parler un peu des débuts difficiles de l'industrie du jeu de rôle. Et donc, bon, rapidement, je fais un survol. Là. Dans les années 70, ça a été dérivé d'un jeu de miniature, un jeu de stratégie. Donc, Gary Gygax et John Arneson ont inventé une espèce des règles là, pour, dans le fond, une petite équipe de héros. Mais donc, c'était comme une extension à l'origine d'un wargame. Puis là, ça a pris un an, je pense, à vendre 100 copies. Enfin, non, ça a vraiment été long à démarrer. Mm-hmm. Mais donc, tranquillement, l'idée a fait son chemin et c'est devenu là, le monstre que c'est devenu. Et dans les années 80, c'est vraiment l'âge d'or là, des jeux de rôle. On parle de Donjons et Dragons, mais là, il y a eu plein d'autres qui sont suivis à ça. Mais en tout cas, je ne parlais pas de ça, là, mais mon but, c'est d'arriver au début des problèmes, des controverses qui sont arrivés.
Parce que soyons clairs, pendant les années 80, il s'est vraiment passé une espèce de chasse aux sorcières en ce qui concerne tous les joueurs de jeux de rôle, où on a commencé à mettre toutes les calamités du monde et puis tous les problèmes psychologiques de tous nos jeunes joueurs qui se suicidaient les uns après les autres dire c'est la faute aux jeux de rôle. Ouais. Un peu ce qui se passe d'ailleurs à l'heure actuelle avec les jeux multijoueurs en réseau. Ouais.
Ben, ils ont fait la même chose avec les bandes dessinées, avec toutes les passions des jeunes garçons et filles.
Avec le rock'n'roll aussi pendant
le rock'n'roll, oui, c'est vrai.
C'est toujours la faute à quelque chose.
Oui. Donc, un lien à faire, c'est toujours ça, la nouveauté, ça dérange l'élite conservatrice, etc.
Puis, c'est drôle parce que maintenant, on s'apprête à sourire parce que les jeux de rôle, c'est plus si populaire que ça. Donc, finalement, c'est devenu...
Pardon? Je refuse cette analyse vaseuse.
Je pense que tu viens de trouver un sujet d'une prochaine
là,
chronique.
C'est une polémique. Là, tu viens lancer une polémique. Non, en fait, l'industrie se porte très bien, Sébastien. Merci de t'informer.
Tout comme puissance maximale.
Voilà, non, sérieux, l'industrie.
Donc,
va
qu'est-ce
bien.
Qui s'est mais passé bon, dans les années 80?
Oui,
je suis désolé d'avoir touché ta susceptibilité.
Oui, là, il y a une petite. J'ai mal, mon cœur saigne, mais enfin, on reviendra là-dessus. Donc, les années 80, oui, donc, à mesure que ça prenait de la popularité, il est arrivé des incidents qui ont terni un peu l'image. Bon, ça a commencé donc en août 1979 à l'Université du Michigan. Et il y a un étudiant qui s'appelait James Dallas Egbert Tree, qu'on appelait Dallas Egbert en tout cas. Il s'est sauvé du collège, de l'université, avec l'intention de se suicider. Et il avait laissé une note confuse dans laquelle il mentionnait là, ce qu'on appelle les steam tunnels. Je ne sais pas si vous connaissez les... En tout cas, je ne fais pas la traduction de ça, là, mais c'est des tunnels pleins de brume, non, je ne sais pas. C'est que sous les universités, dans toutes les universités, il y a des mythes. Même à l'Université Laval, où je suis allé, je ne sais pas si pour ceux qui sont allés, il y a des espèces de tunnels. Il y a plein d'histoires sombres autour
de
ça.
Il y a les terreurs du souterrain qu'on appelle dans ces tunnels-là.
Oui, les terreurs. Puis là, on donne des surnoms bizarres à ces tunnels-là. Il se passe toujours des choses. Bon, bref.
Les fameuses légendes urbaines.
Tout à fait, des légendes urbaines. Donc, là, il est arrivé, évidemment, il y a eu une enquête suite à ça. Mais là, de toute façon, au début, là, James, le fameux James, il ne s'est pas tué. Okay? Il s'est même pas tué. Il s'était juste sauvé. Et puis, il a été retracé après par un détective privé. Mais donc, pendant l'enquête, là, il y a eu un paquet d'erreurs tragiques, du mauvais journalisme irresponsable et tout ça, de la confusion par les autorités, tout ça. Et donc, la publicité qui a sorti, c'est que c'était Donjon Dragon qui était responsable de la disparition du fameux Dallas. Et l'année suivante, Dallas s'est tué, effectivement. Donc, et ça a donné lieu à la rumeur vraiment. Ah, ça y est, c'est le premier suicide de Donjons et Dragons. Donc, on ne tenait pas compte de faits comme, bon, il y avait une pression énorme parce que c'était un enfant prodige, OK? Mm-hmm. Donc, il avait 16 ans, imaginez, puis il rentrait à l'université.
Oh là là.
Vous voyez le genre?
Ouais,
donc, ça fait toujours des cas un peu hein, spéciaux. Mm-hmm. Et puis, il prenait de la drogue, beaucoup, et il était instable mentalement. Donc, vous voyez, il y avait tout ça. Mais bon, ça, on n'en parle pas.
Mais
on insiste sur Donjons et Dragons, vous voyez un peu. Donc, et tout ça à cause des erreurs de journalisme en partant.
Oui, ben c'est sûr que c'est un angle assez intéressant à aborder, là, la folie des jeux, et puis versus la mort de Dallas. Là.
Oui, juste une autre parenthèse à Columbine, la tuerie qu'il y avait eu. Mm-hmm. On a aussi mentionné les jeux de vidéo et les jeux de rôles qui ont été mentionnés. Ouais, donc, c'est vraiment le dos large, ça. Mm-hmm. Et donc, ensuite, c'est ça. Ah oui, pour revenir aux steam tunnels, ben, on disait que donc il y avait, des violeurs systématiques qui se tenaient là, etc. Un paquet de cochonneries, des vendeurs de drogue, et évidemment, des gens qui faisaient du donjon et dragon.
Une autre plaie de la société.
Oui, du grandeur nature. Voilà. Ouais. Et donc, on disait, les gens, ils font de grandeur nature là-bas, et ils y croient, et ils font du satanisme. Donc, oui, ils se mettent en grande robe noire, puis ils font des simules, des sacrifices humains, puis ils apprennent la magie noire, etc. Mais ça en dit long sur les gens qui accusent. T'sais, c'est quoi, vous croyez à la magie noire? C'est bon, en tout cas.
Ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons, mais j'ai vu des amis jouer, puis j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très créatifs et très idéalistes. Ils poussaient loin les limites de l'imagination.
Ça, j'ai trouvé ça fonctionne juste à l'imagination.
Tu n'as pas vu de sombres créatures invoquées,
non,
des démons invoqués?
Pas.
Non, tu n'as pas eu peur? Tu n'as pas senti la réalité?
Au début, non. J'étais un peu soucieux. Là. Je me mettais un peu à l'écart.
Tu avais peur d'être sali.
Des monstres qui jouent à ça. Mais non, finalement...
les êtres humains créatifs.
Des vrais gens, tout le monde.
Comme tout le monde, voilà. Et... même d'ailleurs, il y a certaines études qui tendent à prouver que les rôlistes sont plus intelligents, mais j'embarque pas là-dedans. Bon, en tout cas, mais effectivement, ça prend de vraiment de la créativité. Si on n'en a pas, ça ne marche pas. Donc, OK. Et je continue. Bon, rapidement, disons, en juin 82, okay, il y a eu un autre suicide tragique qui est arrivé, qui a été encore plus difficile pour le hobby. Il s'appelait Irving Bink Pulling, okay, un autre qui souffrait de dépression chronique, d'isolation, d'instabilité mentale, etc. Et il s'est tiré avec le fusil chargé que sa mère gardait dans la maison. Très brillant, madame. Et là, encore là, la mère... qui s'appelle Patricia. Elle est partie, Patricia Pulling, donc elle s'est lancée, elle a consacré une grosse partie de sa vie après ça à condamner les jeux de rôle. Elle a fondé une espèce de fondation, une société, ouais, qu'on appelle Bothered About Dungeons and Dragons, donc ça fait BAD.
BAD.
Elle a formé le groupe BAD, et c'était vraiment BAD, croyez-moi. Et donc, elle a publié des livres, elle était partout.
Il y a beaucoup de membres au sein de ce groupe-là, BAD?
Bien, évidemment, heureusement, ça s'est dissous avec le temps, ouais, parce qu'il y a un autre organisme de défense, le GAMA, là, qui est un organisme de distributeurs de jeux, créateurs de jeux, qui ont tellement... ils leur ont fait mal et finalement, ils les ont discrédités et ça a fermé, heureusement, pour notre grand.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens qui sont contre, par exemple, les jeux de rôle vont prendre les deux, trois personnes qui ont mal tourné et puis ils vont faire abstraction de les 100 000 autres personnes que ça va très bien et puis que,
voilà.
Qu'ils vont...
on fait de l'exception la règle. Ouais, ça, c'est classique quand on veut dénigrer quelque chose.
C'est étrange.
Alors voilà, donc j'ai... est-ce que ça va? Est-ce qu'il nous reste un peu de temps?
Ben, en fait, c'est vraiment parfait. Tu viens juste de combler le temps qui nous restait.
Donc, je vais continuer pour les prochaines fois.
J'ai une anecdote moi-même.
Merci beaucoup, Christian, en tout cas, pour... est-ce que tu reviens avec la deuxième partie? Il me semble qu'il y a toute une,
toute une
polémique qui entoure finalement ce qui s'est passé aussi en France, parce que le mouvement s'est étalé non seulement aux États-Unis.
Oui, dans les années 90, entre autres, il y a eu un cas en 94 en France. Ouais, je vais y revenir.
Puis ça serait vraiment intéressant de faire le parallèle avec ce qui vient de sortir récemment sur les jeux de plateau.
Oh, oui, j'en ai pour au moins deux chroniques. Oui.
Parfait. Merci beaucoup, Christian Lacroix. Puis c'est pratiquement la fin de l'émission Puissance Maximale sur les ondes de Sekaya, en rediffusion, évidemment, sur le Petit Peuple. D'ailleurs, en parlant du Petit Peuple et puis de cette chronique sur ce qui s'est passé au niveau des jeux de rôle dans les années 80, si vous êtes intéressé par le sujet, il devrait y avoir un article qui va sortir très, très prochainement, justement, dans le Petit Peuple, lepetitpeuple.fr, que nous saluons encore une fois de plus. Puis très, très, très bièrement, nous remercions tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire Christian Lacroix, Mathieu Place et notre nouveau, petit nouveau, David Claveau, ainsi que Chantal Campagna qui était à Montréal. Au micro, c'est Sébastien Léonard. On va vous souhaiter une excellente semaine sur les ondes de Sekaya. Surtout, restez en ondes parce que dans quelques secondes, c'est l'émission Homologue qui s'en vient. Et évidemment, on va vous souhaiter surtout beaucoup de jeux parce que c'est important de jouer. Faites la guerre, mais faites la guerre sur plateau. C'est encore mieux.
C'est plus propre. Ouais.
On vous souhaite une excellente semaine. Allez, salut à tous.
Salut.
Kill Bill 4. All right. Yeah, let me put that on.